Des hommes? Non. Des femmes? Non. Des robots? Non. Des surhommes? Implacables. Insaisissables. Invincibles. Insensibles. Aux ordres d'une super-organisation criminelle. Impossible. Rien n'est impossible pour
Culture Prohibée.
Bienvenue pour ce nouvel épisode de Culture Prohibée. Culture Prohibée, c'est l'émission hebdomadaire de la culture panette du Ciboulot, coproduite par Radiographie, Graphite.net et animée par l'équipe des Films de la Gorgone, des Films de la Gorgone.fr. Culture Prohibée, c'est aussi un profil Facebook et un podcast disponible sur différentes plateformes. Tous les détails sont sur le blog de l'émission culture-prohibée.blogspot.com.
I discovered some important new about the unconscious inside his mind, the role of instinctual urges, and so on.
Oh, it happened in Vienna not so very long ago, when not enough folks were getting sick, that a starving young physician tried to better his position by finding out what made his patients tick. Oh, Dr. Freud, Dr. Freud, how I wish you had been otherwise employed. Now this set of circumstances sure enhances the finances of the followers of Dr. Sigmund Freud.
Au sommaire aujourd'hui, une spéciale classique avec un John Huston sorti chez Rimini Édition, Freud, Passion secrète, un film de 1962. Au programme également, quelques-unes des dernières sorties de nos amis d'Artus Film, à savoir Ursus l'Invincible, que Gianfranco Parolini a signé en 1964, Je suis une légende, qui est sorti la même année, D'Ubaldo Ragona et Sidney Salco, des films un peu plus anciens, 5 déserteurs, un film de R. John Hughes, sorti en 1955, L'Étrangleur, un film de 43 de William Wellman, et enfin, on terminera avec quelques films de guerre, sortis chez Elephant Film, Un de nos avions n'est pas rentré, un film signé Michael Powell et Emmerich Pressburger en 1942, Légion étrangère de Robert Floret, un film de 1948, et Ils étaient tous mes fils, un film également de 48, signé Irving Reiss. L'équipe de Culture Prohibée remercie Kevin Boisseuson, Thierry Lopez, Victor Lopez et Jean-Pierre Vasseur pour leur aide sur cette émission. Émission réalisée en partenariat avec la revue Prime Cut.
Now this set of circumstances sure enhances the finances of the followers of Dr. Sigmund Freud. Now the big three have departed, but not so the cult they started. It's been carried on by many a goodly band. Unto trauma shock and war shock, someone went and added raw shock. Now the thing has got completely out of hand. Oh, Dr. Freud, Dr. Freud, how I wish you had been otherwise employed. Now this set of circumstances sure enhances the finances of the followers of Dr. Sigmund Freud. Now old men with double chinsies and a million would-be kinsies will discuss it to the drop of a repression. And I wouldn't mind complaining, but for all the dough I'm paying, to lie down on someone's couch and say confession. Oh, Dr. Freud, Dr. Freud, how I wish you had been otherwise employed. Now this set of circumstances sure enhances the finances of the followers of Dr. Sigmund Freud.
Pour causer film de guerre, je me suis entouré de mes plus bellicistes chroniqueurs, bien évidemment, à savoir Damien Demey, dit la bête noire de Compiègne, un archéologue animal, en quête de cultures souterraines et oubliées, également à la recherche d'Indiana Jones 5 pour lui refaire le portrait. Bonjour Damien.
Salutations à toutes les entités conscientes qui nous écoutent.
Également présent dans ce studio, Thomas Roland, le fameux loup-garou Picard, qu'on ne présente plus, mais on va le présenter quand même. Hein. C'est le créateur de À l'écoute du cinéma, qui est diffusé sur RCA. Et c'est aussi l'étrange personnage qui, chaque nuit de pleine lune, rédige des écrits très très sanglants pour la revue Prime Cut, dont il est le rédacteur en chef. Salut Thomas.
Salut Damien, salut Gégé, salut à toutes. Mais moi, je ne vais pas parler de films de guerre aujourd'hui, moi je vais parler de sexe.
Eh bien, mon cher Thomas, comme l'on dit, à l'amour comme à la guerre, donc tu vas nous parler de celui qui a été, explorer nos pulsions les plus inavouables et qui a été, incarné avec quel talent par Montgomery Clift et mis en image avec quel talent par un certain John Huston, un metteur en scène, ma foi, qui paraît-il, mon cher Thomas, est doté d'un certain talent.
Oui, pareil qu'il a fait quelques classiques, Le Trésor de la Sierra Madre, Asphalt Jungle, des choses comme ça, Quand la ville dort en français. John Huston, on va parler de sexe, je ne rigolais pas parce qu'on va effectivement parler de sexe, mais on va parler de sexe à travers la psychanalyse. John Huston n'est pas tombé dedans quand il était petit, mais par contre il s'est pris de passion pour la psychanalyse. C'est en tournant des documentaires durant la Seconde Guerre mondiale sur les soldats de la Seconde Guerre mondiale, qui s'est pris de passion pour la psychanalyse. Et donc, il réalise ce Freud Passion Secrète. Alors, Freud Passion Secrète, c'est le titre français. Alors, ce n'est pas une comédie vaudevillesque où les portes claquent, où il y a des amants planqués dans le placard ou sous le lit. Non, le titre original, c'est juste Freud. Donc, on parle donc de Sigmund Freud et de comment il a découvert sa théorie de la sexualité. Sigmund Freud est incarné par Montgomery Clift, qui livre une prestation littéralement habitée par son personnage. Il a le regard fiévreux. Et le film dure 2 heures et c'est un film passionnant. On pourrait croire que c'est un simple drame, mais non, John Huston y va complètement ailleurs. Alors donc, bien sûr, le film, c'est Sigmund Freud qui écoute des patients. En l'occurrence, une patiente qui d'abord a perdu la vue et qui a perdu l'usage de ses jambes. Pourtant, elle n'est pas handicapée. Je veux dire, ce n'est pas à la suite d'un accident, c'est à la suite de traumatismes psychologiques. Et donc, il va enquêter, il va l'interroger, l'hypnotiser, pour savoir d'où lui viennent ces traumatismes, à quoi ils sont dus. Et c'est un véritable film policier, en fait. Mais c'est même plus que ça. Freud, c'est même quasiment un film fantastique. C'est passionnant de bout en bout. Il y a des images, littéralement, qu'on croirait sorties de la quatrième dimension. En plus, c'est accentué par la musique de Jerry Goldsmith, qui sort de la série La Quatrième Dimension, et qui signe une partition, mais qu'on croirait être de la quatrième dimension. C'est l'une de ses meilleures partitions, l'une de ses plus étranges. Et il y a des images complètement hallucinées, des images oniriques comme ça. Et au fur et à mesure, donc, le mystère se dévoile. Sigmund Freud arrive à mettre en place sa théorie sur la sexualité, sur le fait que chacun de nous, en fait, notre premier émoi sexuel, c'est notre mère ou notre père. Voilà, c'est notre première attirance vers quelqu'un, c'est notre père ou notre mère. Et il y a des images, des séquences. Alors, ça se passe à Vienne. Hein. Et il y a des images, c'est à Vienne complètement nocturne, à Vienne complètement fantasmatique. On est vraiment, on ne sait pas où on est. C'est un film entre le film policier et le film fantastique. Mais en tout cas, pour moi, c'est un très grand John Huston. Quand je l'ai découvert, j'étais vraiment surpris par ce film dont on parle peu. Pourtant, je crois qu'il a quand même une certaine réputation, notamment la musique aussi de Jerry Goldsmith. Et c'est un film que je vous recommande chaudement. Et même si vous n'êtes pas porté sur la psychanalyse, si Sigmund Freud, qui est encore fait encore polémique aujourd'hui, n'est pas un personnage qui vous intéresse, vous allez voir un film fantastique dans tous les sens du terme.
Je rappelle que Freud, Passion secrète de John Huston, est donc disponible chez Rimini Éditions. vous écoutez Culture Prohibée. Je vais rester, Thomas, dans, comment dire, les films à caractère sexuel, puisque, ben, qu'on se souvienne, hein, je crois que c'est Leslie Nielsen qui dit ça à un enfant dans « Y a-t-il un pilote dans l'avion ?» Est-ce que tu aimes les films de gladiateurs? Alors, je vais vous parler d'un film, d'un péplum, sorti chez nos amis d'Artus Film, un péplum de 1964, un péplum qui s'intitule Ursus l'Invincible, Gli Invisibilitre, parce qu'ils sont trois quand même les personnages dans ce film. Alors, Gianfranco Parolini, qui a un peu tout fait, hein, ce metteur en scène. Alors, dois-je vous raconter l'histoire du film? Bon, je vais quand même vous la raconter, quand même. Hein, voilà. Ursus, il a une force surhumaine, mais il n'est pas super fut-fut. Du coup, il a deux acolytes qui sont un peu des acrobates, des personnages sautillants, des personnages qui volent, qui volent sans trampoline, mais il doit y avoir une trampoline cachée dans le décor. Et ils vont dans une ville où un homme a usurpé l'identité d'Ursus. Alors, lui, c'est un dingue. Lui, il prend trop de risques. Et il a imposé un pouvoir assez despotique. Et ben, qu'est-ce que va faire Ursus? Qu'est-ce que vont faire ses potes? Ils vont décider de rétablir la vérité et de faire jouer la justice. Voilà. Et écoutez, ça va donner un film bien, bien sympathique. Alors, on parle souvent d'Hercule, on parle souvent de Massiste, mais on oublie que Ursus est un personnage, en fait, qui a été très souvent aussi illustré au cinéma. Il est présent, par exemple, dans la version de 1896 de Kovadis, qui est une version d'Henrik Sienkiewicz, et il va ensuite être présent dans de nombreux films. Alors, je vous dis ça, je ne suis pas un génie, hein, je n'ai pas été fouiller ces infos très loin. Je les ai trouvées dans le très bon livre de Michel Éloi, qui accompagne ce très beau coffret consacré à Ursus l'Invincible. Il n'y a que nos amis d'Artus Film pour consacrer un coffret aussi sensationnel, un film relativement mineur, en fait, dans l'histoire du péplum italien. On n'est pas dans les grands films de Cotafavi, les films de Bava ou de Freda, mais on est dans un film sympathique, dans un film qu'on a plaisir à voir. Alors déjà, il y a la belle Rosalba Neri qui joue dedans, il y a la belle Orchidea De Santis qui joue dedans, ça fait partie du charme de ces films, hein, voir les belles nymphes de l'époque. Dans le rôle principal, c'est Alan Steele. Alors Alan Steele, c'est pas le meilleur culturiste, on peut lui préférer Steve Reeves, effectivement, qui dans les deux films de Pietro Franceschi, les 12 travaux d'Hercule, Hercule et la Reine de Lydie, se révèle assez brillant, en fait. Hein. Ces films qui sont aussi co-réalisés par Mario Bava, et il se révèle assez brillant. Là, on est dans quelque chose de différent, qui va avoir une ambiance plus bon enfant, avec un côté aussi, avec le duo, là, un peu cascade et grosse baffe dans la gueule, à la Terence Hill et Bud Spencer, quoi. On est un peu dans cet esprit-là. C'est pas très étonnant, en fait, quand on sait qui est Gianfranco Parolini. Gianfranco Parolini, c'est l'inventeur de ce qu'on appelait, c'est un cours courant au sein du western italien qui s'appelle le western gadget, avec des personnages comme Sabata, par exemple. Et ces films, il les a signés sous le pseudonyme de Frank Kramer. Et c'est des films avec Lee Van Cleef, tout ça, où on voit, il y a toujours ces personnages, ce duo d'acrobates qu'on voit dans ces films. Et puis, il y a ces cow-boys qui ont des gadgets, en fait. Un peu, c'est des cow-boys James Bond, avec des flingues cachées dans les bottes, des stylos qui envoient du poison, des choses comme ça. Et ça donne des films fort sympathiques. Alors, ces western gadgets sont plus réussis que ce péplum, mais ce péplum, c'est un film sans prétention qui est très bien mis en scène, parce que Kramer, c'est un réalisateur Kramer, Parolini de son vrai nom, c'est un réalisateur très soigneux qui prend soin de ses cadres, qui quand il a des moyens, là il en a, hein, nous livre des plans filmés dans des beaux décors, les costumes sont très beaux, les combats sont assez bien chorégraphiés. Donc si vous avez gardé votre âme d'enfant, vous allez beaucoup apprécier ce film de Gianfranco Parolini sorti chez Artus Film. Je veux bien sûr parler de Ursus l'Invincible. Je vais rester chez Artus Film, dans leur collection des grands classiques, pour un film de William Wellman. Un film de 1943. William Wellman, c'est un metteur en scène quand même fort réputé. Hein. William Wellman, qui a réalisé en particulier ce film étrange, ce chef-d'œuvre qui est L'étrange incident. Voilà, que je vous encourage à voir. Là, c'est un film plus mineur dans sa filmographie. C'est un film de 1943 qui s'appelle L'étrangleur, qui met en scène une danseuse de burlesque interprétée par une superstar. Hein, c'est Barbara Stanwyck. Donc, elle joue le rôle de Dixie Daisy, qui est l'une des vedettes d'un spectacle burlesque dans un théâtre de Broadway transformé en musical. Et Lolita, une des actrices de la troupe, est retrouvée assassinée. Dixie, donc Barbara Stanwyck, est très vite soupçonnée à cause de la rivalité hein, qui régnait entre ces deux danseuses. Mais d'autres crimes inexpliqués vont bientôt avoir lieu et Dixie va mettre en place un piège pour démasquer l'assassin. Alors, ce film de Wellman a ce site particulier qu'il est une tentative de mixer un peu film noir, film d'enquête, un peu Wood Unit comme ça, avec la comédie. Et le tout dans une volonté à l'époque du code Ice hein, de choquer un peu le bon peuple, de faire un film un peu provocateur en mettant en scène ces belles femmes qu'on va filmer dans des tenues légères. Voilà. Bon. Ça tombe un peu à plat aujourd'hui parce que c'est assez désuet en fait comme érotisme. Ça nous paraît pas très bien choquant. Sachez aussi, parce que c'était contractuel, c'est pour l'anecdote, hein, que Barbara Stanwyck n'est filmée qu'à partir de la taille. On ne filme pas le bas de son corps. Voilà. Donc ça, c'était pour la partie anecdote. Hein, mais pendant les scènes de danse, pendant les numéros, il a été contraint, Wellman, de la filmer uniquement le haut du corps. Alors, le film présente... Pareil, pour essayer de choquer pour essayer de jouer un peu avec la censure, le fait que les filles sont étranglées avec des sous-vêtements, donc on est ouf, dans le top de la provocation de 1943 quand le code Eyes sévit. Et on peut prendre un petit plaisir autour de ce film gentiment coquin, voilà, qui a quand même vieilli, hein, il faut dire ce qui est, qui a quand même vieilli, qui est un film plutôt mineur, hein, mais qui est bien mené. Wellman est un metteur en scène aguerri, qui a du métier, et Barbara Stanwyck, a de l'abattage, donc voilà, ça se laisse regarder, mais vous n'allez pas découvrir un grand classique méconnu de William Wellman en voyant ce film, donc, dont le titre français est L'étrangleur.
Everything you dream of, but never can possess. Nothing's what it seems. Welcome to burlesque. Oh, everyone is buying. Put your money in my hand. If you got a little extra, well, give it to the band. Not be guilty, but you're ready to confess. Tell me what you need. Welcome to burlesque. You can dream of cocoa, do it at your risk. The triplets grant you mercy, but not your every wish. Yes, it keeps you guessing. Cool and statuesque. Behave yourself, says Georgia. Welcome to burlesque.
Écoutez, Culture Prohibée, spécial classique.
Something dead, the dark is playing with your mind. It's not the end of day.
obscures et qui nous est là proposé par Artus Film, est un film de 55 de Herr John Hugh qui s'appelle 5 déserteurs. Alors, c'est simple, le pitch du film est assez simple. Un colonel sudiste est démis de ses fonctions, il rencontre 4 déserteurs dans les Everglades, et ensemble, ils vont tenter de survivre et de s'échapper de ces marais. Et évidemment, l'épreuve sera longue entre la nature hostile et les assauts successifs des Indiens séminoles vivant sur ce territoire. Et c'est là qu'on découvre, alors on est chez Empire Productions, Republic Pictures, voilà, ce type de production, hein, c'est du tout petit budget de série B de l'époque. C'est écrit, produit, réalisé par Herr John Hugh, qui a signé quelques westerns, qui a un metteur en scène quand même relativement oublié. Et ce film, il a une particularité, c'est qu'il fait partie d'un sous-genre un peu du western, les westerns séminoles, en fait, où on a donc des Indiens séminoles. C'est une sorte de courant un peu comme ça du western américain, alors qu'a débuté très tôt, hein, dès les débuts du cinématographe, avec The Seminoles Trust en 1910, The Seminoles Sacrifice en 1911, The Virgin of Seminole en 1923. Donc ça rigole pas. Et puis qui va revenir à la mode dans les années 50, puisqu'il va y avoir quelques blockbusters entre guillemets de l'époque qui vont mettre en scène des Indiens séminoles qui ont la particularité d'avoir des us et coutumes un peu différents, qui changent des Apaches, des Comanches et qui ont un look un peu différent en fait. Donc du coup ça permet à peu de frais de varier la menace qui menace nos amis. Alors le film n'est pas un grand film, mais c'est un petit film fauché, fort plaisant, où on voit donc ces déserteurs qui sont en fait pour la plupart des types pas très sympathiques, des petits voyous quoi. Bon, le héros lui, c'est plutôt un type sympathique. Lynn McCarthy, c'est le seul qui est à peu près sympathique. Mais les autres loustiques qui sont avec lui, il y a une sorte de gamin un peu vert comme ça, un petit bleusaille quoi, qui est comment dire. Pas vraiment bien façonné encore. Et puis à côté de ça, il va y avoir un déserteur qui a volé de l'or et qui a volé de l'or à l'armée. On va avoir un Anglais qui est pas très sympathique non plus. D'ailleurs, c'est pas très original. Il s'appelle Cockney. Bravo les gars, vous vont-ils chercher tout ça. Mais ce qui est intéressant en fait dans le film. Alors déjà, il y a un vrai Indien séminole. C'est Roy Nash Osceola. Enfin, il paraît très que ce soit un vrai séminole. Voilà qui joue un des Indiens. Et puis ce qui est assez rigolo, c'est toutes les scènes de paysages un peu dévastées avec les confrontations avec les animaux. Alors selon IMDb, les scènes en fait ont été tournées pendant une réelle tempête. C'est un ouragan, ça a été tourné en Floride, c'est un ouragan qui avait visité la Floride pendant le tournage. Et du coup, les images, c'est pour ça qu'ils ont ce cachet un peu réaliste. Et les serpents du film, parce qu'il y a des serpents, il y a un personnage qui a peur des serpents, voilà. Ce sont des serpents qui viennent d'un piège à touristes local. Ça s'appelait Alligator Farm, ça c'est sur IMDb aussi cette info. Et d'autres scènes ont été tournées dans la région d'Altamont Springs. Alors, je rajouterais aussi qu'on voit très bien que d'autres scènes avec des animaux sont des stock shots. Hein. Voilà, c'est assez voyant. Donc, au final, quand vous débutez ce film, vous savez à peu près à quoi vous attendre. Vous savez qu'ils vont tous se faire décimer. Hein, voilà. Peut-être un ou deux vont survivre. Voilà, mais ça, je ne vous le dirai pas. Donc, 5 déserteurs. Petite série B d'époque, c'est sorti chez Artus Film, ça se regarde, c'est de Herr John Hugh, ça se regarde, mais pour moi c'est pas le gros morceau de cette salve de la collection Grand Classique. Pour moi le gros morceau, c'est cette copie restaurée de Je suis une légende, signée Ubaldo Ragona, réalisateur italien, hein, dont d'ailleurs Je suis une légende est à peu près le seul titre connu, et Sidney Salco, alors réalisateur lui américain, qui est un réalisateur assez peu connu, mais qui est en fait un réalisateur très prolifique, qui a énormément tourné, beaucoup de films sortis aux États-Unis, beaucoup de séries B, beaucoup de choses, comment dire, plutôt intéressantes. Et là, il signe ce film un peu hybride, qui est une adaptation, évidemment, qui est la la première adaptation filmée du fameux bouquin, du génial bouquin de ce génial écrivain, qui est Richard Matheson. Il y a très très longtemps, il y a plusieurs saisons de Culture Prohibée, je vous avais expliqué tout mon amour que j'ai pour ce livre. Et ce livre, c'est donc « Je suis une légende ». Est-ce que Damien, cette adaptation de « Je suis une légende », qui est donc la première de l'histoire du cinéma, avant celle de Boris Sagal avec Charlton Heston, The Omega Man en 71, le survivant, celle-là qui est très funky, hein, qui est très blaxploitation, et celle de Francis Lawrence avec Will, distributeur de Baf Smith en 2007, qui s'appelle elle-même Je suis une légende, voilà, elle aussi. Comment tu le situes parmi toutes ces adaptations de Matheson ?
Listen, on the ear to be a legend, near to bust up all the metric. What's a now? Just a second, I divine. Competition taking losses, not accepting you a G, but I'm a legend, breaking laws and breaking physics. Say, yeah, I'll never quit, but I'm conceited. I was never broke, I called it pre-rich. Yeah. Legacy greater than the achievements. Yeah. Legendary is my only prefix.
Don't belong in the 7, don't belong in this time. I should be in 67, 88, 95. Don't belong in this era, I'm the greatest all time. Only kings live forever, I ain't never gonna die. I'm a legend, greatest ever anytime. I'm a legend, I ain't never gonna die. I'm a legend, greatest ever anytime. I'm a legend, I ain't never gonna die. Legend, legend, I'm a legend.
Listen, making hits and dropping singles, stacking chips like they some Pringles. I don't miss, I always hit you, cop a whip, push your reno, I insist. I get into anything that's essential to the winds, and I'ma get you ticker in the car from a beast. I'm a dog, separate from a boss. I'm the owner of it all, I'm the reason and the why. I'm the alpha zeta phi, I'm erasing every line. I'm the greatest man alive.
Don't belong in the 7, don't belong in this time. I should be in 67, 88, 95. Don't belong in this era, I'm the greatest all time. Only kings live forever, I ain't never gonna die.
I'm a legend, greatest ever anytime. I'm a legend, I ain't never gonna die. I'm a legend, greatest ever anytime. I'm a legend, I ain't never gonna die.
Legend, legend. I'm a legend.
Vous écoutez Culture Prohibée.
Repeating all my lessons till you on my level. I'm never losing, I ain't never failing. I ain't never lie, I do not embellish. You say I'm not a legend, I ain't never mad. Ain't never something, I ain't never mad. I do not lose, I ain't never failing. I'll never lie, I do not embellish.
I'm a legend. Legend, legend.
Pour citer Matheson lui-même, qui a du coup travaillé sur le script du film, c'est la meilleure adaptation de Je suis une légende selon lui, mais également selon lui, bah, il est quand même déçu du résultat. Et quand on voit ce qu'on lui avait proposé à un moment avec des grands noms, de grands réals pour tourner dessus, ce qu'il avait hypé et qui avait fait qu'il était vraiment dans le projet et qu'il a eu. Bah, qui s'est retrouvé avec cette équipe-là, il était un peu moins hypé, mais il était encore content de faire ce film. Alors, ce film, Je suis une légende, a la particularité d'avoir un acteur principal qui porte tout le film et toute l'intrigue, qui ici est joué par Vincent Price. Alors pour résumer l'histoire, le docteur Robert Morgan, donc joué par Vincent Price, est le dernier humain sur Terre après avoir échappé à une épidémie qui a transformé les autres hommes et femmes en vampires. Depuis 3 ans, toutes ces journées se ressemblent. Le jour, les vampires qui craignent la lumière du soleil se reposent, et pendant ce temps-là, Morgan, armé de puits en bois, parcourt la ville, repère les refuges de morts-vivants affaiblis comme des zombies, et les empale pour ensuite aller brûler les corps dans une énorme décharge. La nuit, il se réfugie chez lui, où les vampires essayent de prendre d'assaut sa maison, mais qu'il protège grâce à des miroirs et de l'ail. Et de temps en temps, il essaye de communiquer avec d'éventuels survivants, d'autres humains non affectés à l'aide d'une radio, mais toujours sans succès au moment où le film débute. Et le film débute justement sur le héros qui se réveille de son canapé. On voit sa maison en désordre, et à partir de ce moment-là, on a la voix off qui commence. Une voix off très présente dans le film, logiquement parce qu'il est tout seul et que... Bah que généralement quand on est tout seul on parle dans notre tête, bon quelquefois on parle à voix haute, c'est pour ça qu'avec quelques exceptions dans le film on l'entend parler lorsqu'il est tout seul, et une voix qui est au début très présente. Du coup je me suis dit que le film avait un peu peur du vide, le fait que d'avoir juste une personne présente, mais en fait non, c'est un film qui est capable de laisser couler l'action de temps en temps pour juste nous faire profiter de ce qui se passe. Il y a plusieurs flashbacks que je trouve inégaux dans le film. En fait, je trouve qu'ils sont inégaux parce qu'ils modifient légèrement la dynamique qu'il y a du film. Au lieu de lui en donner une, je trouve qu'il le ralentit ou qu'il lui fait perdre un peu son temps. Ce qui n'empêche pas qu'avec cette réédition, on a une image qui est magnifique. C'est un truc qui m'a immédiatement choqué lorsque j'ai lancé le film. On trouve des décors très, très européens. Et c'est normal, vu que ça a été filmé à Rome pour faire une économie d'argent. Ce que je trouve intéressant, parce que durant le film, l'action se passe normalement aux États-Unis, où on explique que le virus, c'est un virus européen. Merci pour notre poire. Et malgré le fait que c'est censé se passer aux États-Unis, ça fait vraiment village européen. Et quand j'ai vu que ça avait été tourné à Rome, j'ai fait « Ah, tout s'explique ». Alors, c'est un film devant lequel je suis assez mitigé. Je me suis pas refait tous les autres, Je suis une légende, mais c'est un film que je trouve intéressant. Je trouve l'histoire intéressante, même si je trouve qu'il manque un peu de dynamique, et j'aime beaucoup la fin, la façon dont tout se met en place et comment ça se conclut dans une église avec un petit côté saint de sacrifice, tout ça. C'est un film qui a une excellente réputation, au point que d'après ce que j'ai vu, George Romero s'en est inspiré pour faire sa Nuit des morts vivants, donc ça a impacté énormément de monde. Alors personnellement je trouve le film sans être vraiment étrange, mais il en est pas moins intéressant, vu que ça peut produire d'autres films cultes.
Il paraît évident, ouais, effectivement, que le film a inspiré, comme le film de Rupert Hercarvey, Carnival of Souls, qui est aussi disponible chez Artus Film, dans cette même collection d'ailleurs, saluons-le, qui là, pour le coup, pour moi, est un immense film. Un immense film onirique, démentiel, voilà. Bon, là, on est d'un cran en dessous, hein. C'est un drôle de film, en fait, ce film, parce que c'est un film à la fois passionnant, puis à la fois décevant. C'est un film qu'il faut absolument avoir vu quand on est fan de fantastique, d'épouvante, d'horreur, de SF. C'est un film qu'il faut absolument avoir dans sa DVD tech, et en même temps, c'est un film qui laisse un petit goût d'inachevé. Alors, tu l'as dit, Matheson a travaillé sur le scénario. Il a déclaré qu'il était satisfait du film. Après, il a déclaré qu'en fait, il n'était pas satisfait en particulier du jeu de Vincent Price, qui est très bon, mais qui a un jeu très théâtral, qui a un jeu très particulier, bien à lui. Voilà. Après, c'est une performance d'acteur quand même, hein, parce qu'il porte le film à lui tout seul. Le film est en noir et blanc. Alors, je pense que les visions du film, ce film en noir et blanc, ce type enfermé chez lui, avec des monstres qui essayent de rentrer, ces personnages, ces vampires qui ont l'air un peu de zombies, comme ça. Je pense qu'ils sont, c'est vraiment une source d'inspiration, ça paraît évident, de la Nuit des morts vivants, Night of the Living Dead, que Romero tournera 4 ans plus tard. Hein. Le film garde le côté darwiniste du livre que notre échappé de l'église de Scientologie, Will Smith, gomme quand même dans le film de Francis Lawrence. C'est un film bon dieuzard, hein, quand même. C'est ça, moi, qui me déplaît énormément dans le film de Lawrence, hein, c'est qu'on change le sens du livre. réalisateur a le droit de s'emparer du livre, d'en faire ce qu'il veut, mais en tout cas, moi, je suis pas d'accord avec ce qu'il en fait. Voilà. Parce qu'on trahit un peu l'esprit du livre, là, quand même. Le film est un film darwiniste. En fait, ce que ça montre, c'est que l'homme n'est qu'une étape dans la chaîne humaine, dans la construction de l'être parfait, quoi, voilà, et que l'homme est arrivé au bout de... C'est un film à revoir dans le contexte qui est le nôtre aussi, c'est-à-dire que l'homme est arrivé au bout de son règne, hein, l'humanité s'arrête, voilà, l'homme arrive au bout de son règne. C'est ça que ça raconte, quoi, Je suis une légende. Donc le film, oui... à la fois passionnant et décevant, une sorte de grand film raté, une sorte de grand film malade. Je pense que le film a eu des soucis de production et c'est pas pour rien qu'il y a des scènes tournées en Italie, il y a un réalisateur américain de l'autre côté. Je pense que ils ont pas eu énormément de choix et que ça a dû perturber quand même le film, mais il en résulte quand même un film passionnant, un film malade comme seul le cinéma de genre peut en produire. Écoutez Culture Prohibée spécial classique. Je vais changer un peu d'ambiance, je vais aller chez nos amis d'Éléphant de Film et je vais me diriger vers les trois films de guerre qui viennent de sortir chez Éléphant de Film dans leur collection consacrée aux films de guerre. Je vais commencer par un film de 1942, One of Our Aircraft is Missing, un de nos avions n'est pas rentré. C'est un film britannique, c'est réalisé par Michael Powell et Emmerich Pressburger. Je vous les présente plus, on en a souvent parlé dans l'émission. Ce sont deux immenses réalisateurs britanniques. Michael Powell était certainement voué à être, était le réalisateur le plus adulé de sa génération, encore plus Hitchcock, considéré comme un pur génie. Et puis il a fait Peeping Tom, le voyeur qui a sabordé sa carrière et après il a quasiment plus jamais rien tourné. Tout le monde reconnaît aujourd'hui que Peeping Tom est un chef-d'œuvre absolu. Mais au moment où c'est sorti, ça ne s'est pas passé comme ça. Voilà, ça a été très compliqué pour lui. On est dans un des premiers films produits par les Archers Productions. C'était leur boîte de production. Hein. Alors, Archers Productions, excusez du peu, mais c'est quand même des films assez incroyables. Hein. Il va y avoir Canterbury Tale, Une question de vie ou de mort, Le Narcisse Noir, fabuleux film, démentiel film, voilà, Le Narcisse Noir, Les Chaussons Rouges, superbe, revoyez Les Chaussons Rouges, tous ceux qui s'extasient sur Black Swan, revoyez Les Chaussons Rouges, on en reparlera après. Voilà, c'est d'immenses metteurs en scène qui, ensemble, vont construire une œuvre avec leur société de production, une œuvre très cohérente, très intéressante. D'ailleurs, le film dont on va parler aujourd'hui, il vient après un autre film de guerre, 49e parallèle, tourné l'année précédente, sorti l'année précédente en 41, qui fait partie de tous ces films qui étaient tournés au mi-temps de la Seconde Guerre mondiale, qui étaient des films de propagande, en fait, hein, clairement, destinés à favoriser la résistance, à aider les soldats, à encourager au combat, et à persuader aussi... les grands amis des Britanniques, les Américains, qu'il fallait venir nous aider. Voilà. Hein. Hitchcock a participé aussi à cet effort de propagande, mais lui avec des films documentaires et tout ça. Enfin bon, mais ils sont très nombreux à avoir fait des films de ce type. Là, l'histoire est assez simple. Hein. Le bombardier Beaufort Bertie est touché au-dessus des Pays-Bas. L'équipage saute en parachute et des résistants néerlandais vont les aider à retourner en Grande-Bretagne. En gros, c'est un peu comme la Grande Vadrouille, mais c'est pas comme la Grande Vadrouille. Voilà, c'est pas Bourville et de Funès, voilà. Mais et on va avoir un film, un film assez passionnant. Alors, passionnant parce que c'est une des premières productions des Archers, donc c'est, pour tous les cinéphiles, c'est une date, c'est historique. Hein. Passionnant parce que le film est moderne dans sa forme, en fait. Il est assez austère, il est assez sec. J'ai envie de dire presque bressonien. Voilà. Alors après, il y a évidemment toute la photo, parce qu'ils ont une magie dans la photo, ces deux metteurs en scène qui est assez extraordinaire. Le film est assez astucieux. Le film a plein d'idées comme ça de mise en scène. Par exemple, il n'y a pas de bande sonore, ce qui fait qu'on est plongé dans une certaine ambiance très réaliste. Il y a le choix aussi, qui se pratique toujours dans certains films, hein, mais que là, j'apprécie particulièrement, c'est de ne pas sous-titrer les langues étrangères. Comme ça, on est dans le même état d'esprit que nos personnages principaux. Et puis surtout, évidemment, on ne peut s'empêcher de penser au précédent film, 49e parallèle, qui racontait comment des sous-mariniers en fuite devaient se frayer un chemin vers l'Amérique neutre. Là, ce sont des jeunes soldats, des soldats qui doivent donc traverser les Pays-Bas pour aller en terre britannique. On a un film, c'est pas le meilleur film de Powell Pressburger, évidemment, hein, mais on a un film assez trépidant, assez intéressant, avec plein d'idées dans la forme, et puis des dialogues assez savoureux quand même, il y a des moments très drôles, je vais vous en citer un. Hein. « Pensez-vous que nous, Hollandais, qui avons chassé la mer de notre pays, la laisserons aux Allemands ? Mieux vaut la mer. » Voilà, j'adore ce genre de dialogue, ça me fait beaucoup rire. Et puis, le film a même un côté queer, un côté certains l'aiment chaud, puisqu'à un moment, nos hommes vont être obligés de se déguiser en femmes pour se glisser dans un groupe de femmes. Et c'est un film qui laisse la part belle aux femmes, aux personnages féminins. On va avoir un personnage de Pamela Brown, un personnage d'institutrice. On va avoir la provocante Joyce Redman, qui va être dans le film aussi. La résistante Googie Withers, une jolie petite blonde comme ça, qui va jouer un personnage féminin important dans l'histoire du film. Donc on a un film très intéressant, au montage vraiment très réussi. Quand je dis très moderne, en fait, c'est comme ça qu'on monte toujours les films aujourd'hui. Alors après, quand on regarde qui est le monteur, on s'aperçoit que c'est David Lean. C'était pas non plus un manchot quoi, quand il tenait une caméra. Donc ça a de la gueule. Voilà. Alors, quand vous additionnez tous ces talents-là, vous avez un film de propagande, ma foi, qui complète très bien le 49e parallèle, leur film précédent. Hein. Et donc ça s'appelle « Un de nos avions n'est pas rentré ». Et c'est un bon petit film de guerre à l'ancienne et c'est disponible chez Éléphant de Film. Autre film disponible chez Éléphant de Film dans cette salve, c'est un peu le plus mineur de cette salve. C'est un film sorti en 1948 qui s'appelle Rogue's Regiment, Légion étrangère, qui raconte l'histoire d'un agent secret américain qui est joué par Dick Powell, qui va rechercher un ancien criminel de guerre, Martin Bormann, qui est soupçonné de s'être caché dans la Légion étrangère en Indochine, parce que oui, partie intéressante du film, on nous montre une armée française aux abois avant qu'ils refilent l'Indochine, le Vietnam aux Américains. Ils sont tellement aux abois qu'ils récupèrent des combattants d'un peu partout, et y compris des combattants allemands, pour essayer de mettre la pâtée aux Indochinois. Voilà. Et donc, au milieu de tout ça, y a un nazi. Un nazi qui est donc... dont on ne connaît pas le visage, qui s'est échappé d'Allemagne, et la seule photo sur laquelle on le voit, c'est une photo sur laquelle on voit l'arrière de la tête de ce sinistre personnage. Donc évidemment, ça va créer un certain suspense. Dick Powell va aller à sa recherche et il va croiser différents acteurs, dont Vincent Price d'ailleurs, hein, qui joue un Allemand qui se fait passer pour un importateur hollandais d'antiquités et qui passe en fait des armes pour les révolutionnaires vietnamiens. Ce film... fort sympathique, hein, même s'il est moins bon que les deux autres là, qui sont dans cette salve, est signé Robert Florey. Robert Florey, on l'a un peu oublié, mais c'était un réalisateur français, franco-américain, quoi, qui est né en 1900 à Paris, et puis qui est mort en Californie en 1979, et qui est surtout connu pour avoir signé un des petits classiques de la période Universal, c'est Double assassinat dans la rue morgue d'après Edgar Allan Poe, avec Bela Lugosi, film qu'il réalise en 1932. I have often told you stories about the way
life of a drifter, waiting for the day when I take your hand and sing songs, and maybe you would say, come lay with me and love me, and I would surely stay. But I feel I'm growing older, and the songs that I have sung echo in the distance like the sound of a wheel going round. I guess I'll always be a soldier of fortune. Times of being a traveler, I look for something new. In days of old and nights of cold, I wandered without you. Those days I thought my eyes had seen you standing near. Though blindness is confusing, it shows that you're not here. I feel I'm growing older, and the songs that I have sung echo in the distance like the sound of a windmill going round. Guess I'll always be a soldier of fortune. Sound of a windmill going round. Guess I'll always be a soldier of fortune.
Vous écoutez Culture Prohibée.
Guess I'll always be a soldier of fortune.
On va retourner en 1948, Damien, pour le dernier film de cette salle, mais aussi le dernier film de cette émission. Et c'est « Ils étaient tous mes fils, All My Sons », qui est une vraie découverte pour moi, qui est un film signé d'un certain Irving Rice, et qui est un film avec Burt Lancaster et Edward J. Robinson, adapté d'Arthur Miller. C'est un film qui raconte l'histoire d'un industriel, Edward J. Robinson, hein, qui a... fait accuser son associé alors qu'il a vendu des pièces défectueuses qui ont causé la mort, je crois, de 21 aviateurs. Et la fille de cet associé qui a été emprisonnée, elle revient dans sa ville natale pour épouser Burt Lancaster. Burt Lancaster, c'est le fils d'Edward J. Robinson. Burt Lancaster qui idéalise lui son père, qui ne veut pas voir ce qu'il est réellement. Et en fait, en plus, cette fiancée, elle a une histoire particulière parce qu'elle était fiancée à l'autre frère qui a disparu en mission, l'autre fils d'Edward J. Robinson. Et donc, elle porte en elle un secret qui va entraîner, évidemment, la chute de ce patriarche, la fin de son impunité. Mon cher Damien, je crois que tu es tout comme moi. Ce film, tu ne le connaissais pas. Et moi, il m'a bouleversé, ce film.
Excellente surprise, grande découverte. Je commencerai déjà par dire que, certes... on a un doute de base sur ce qui s'est réellement passé. C'est vraiment du sous-texte. On sait que le père n'est pas très apprécié. Au fur et à mesure, on commence à comprendre pourquoi. Parce que quand le film commence, le premier truc qui est mis en avant, c'est le frère du héros qui a disparu. Ensuite, on découvre que la copine avec qui Burt Lancaster veut sortir, c'était la copine de son frère qui a disparu. Il a disparu depuis 3 ans, donc... Voilà, et au fur et à mesure que le film progresse, il met en place des éléments qui créent le doute, des non-dits, des silences qui sont étranges. Et tout part au final d'une agression dans un restaurant alors qu'il dîne en famille. Une femme vient agresser le père et c'est à ce moment-là qu'on a enfin le début de ce qui s'est passé. Mais c'est vraiment le tout début... Le tout début du film, le casting est assez incroyable, comme tu as pu le citer au fur et à mesure. Moi, ça m'a fait drôle parce qu'il y a Anne Deaver qui joue dedans, Louisa Horton, et c'est quelqu'un qui a fait peu de films. Elle a vraiment fait que quelques films, mais que j'avais découvert avec Alice, Sweet Alice, qu'on a chroniqué il y a quelques émissions de cela. Alors, c'est un film qui repose sur des événements vrais. C'est une véritable affaire qu'il y a eu dans les années 41-43 où des pièces défectueuses ont été vendues à l'Air Force qui a conduit à ce qu'il y ait des accidents en avion et donc des morts. C'est à partir de cette histoire que Arthur Miller se met à écrire l'histoire qui est d'abord une pièce de théâtre. Ce qui se ressent dans l'écriture de l'intrigue, on retrouve une certaine force des tragédies gréco-romaines, mais quand je parle de théâtre, je parle surtout de la façon dont ce qu'on peut considérer comme des actes se réalisent. C'est pas dans le jeu des acteurs, parce que c'est une très bonne adaptation, c'est pas juste une transposition d'une pièce, c'est un véritable film et il porte ce voile sombre qui dérange, qui pèse de manière efficace sur toute l'affaire. Et le fait qu'on découvre au fur et à mesure, on pourrait se dire que ça fait descendre la tension, mais ça ne fait rien d'autre que la maintenir jusqu'au final qui est vraiment... C'est un film qui tient en haleine du début à la fin et la fin ne perd rien avec son dénouement.
Effectivement, excellent film. Hein. C'est la révélation de cette salve de films là, édité par Elephant Film. Hein. C'est vraiment le film, la photo de Russell Métis aussi, on n'a pas parlé, qui est sublime. Hein. Le film est beau en plus. La mise en scène est belle. Enfin, c'est étonnant. Enfin, on ne connaît pas ce metteur en scène, mais moi, du coup, j'ai envie de voir d'autres films de ce metteur en scène. Je ne sais pas du tout ce qu'il a fait d'autre. Et du coup, mais comme quoi, le cinéma, c'est merveilleux. Il y a toujours des choses à découvrir. Et il y a un personnage dont tu n'as pas parlé, que j'aime beaucoup, qui est le personnage de la femme d'Edward J. Robinson, celle qui attend le retour du fils cadet, en fait, qui est jouée par Maddy Christian. Et c'est un drôle de personnage, on la croirait sortie d'un film d'horreur presque. Enfin, c'est un personnage à la fois pathétique et à la fois humainement passionnant. Elle porte un discours qui est de dire que ce fils, en fait, il a payé pour les péchés du père. En fait, c'est très biblique cette histoire, quoi. Donc,
elle a un côté assez gothique, assez maison hantée, parce qu'elle vit indirectement dans le passé. C'est-à-dire que pour tout le monde, c'est acté, le fils est mort, mais pour elle, il est seulement disparu. Et elle est toujours là à le ramener en avant en parlant de ce fils, finalement, qui devient un fantôme dans la pièce. Mais c'est un film qui joue très bien, justement, avec les personnes qui sont disparues, parce qu'il y a le fils d'un côté de la famille qui est encore complète en dépit de l'affaire qu'il y a eu et de la disparition de son fils. Et en face, on a justement la fille que Burt Lancaster veut épouser, qui, eux, ont perdu son père dans cette affaire, qui est le seul qui a fini en prison et qui s'est suicidé suite à la pression qu'il a eue.
Vous l'aurez compris, ça sorti chez Elephant Film. Ça s'appelle All My Sons, Ils étaient tous mes fils. C'est réalisé par Irving Rice. Et c'est notre coup de cœur de cette salve de films sortis chez Elephant Film. Donc on vous le recommande fortement. Sure, Rob, compassionless, calm. C'était Culture Prohibée, une émission réalisée en partenariat avec Les Films de la Gorgone et la revue Prime Cut. Culture Prohibée est disponible en balado-diffusion sur différentes plateformes. Toutes les réponses à vos questions sont sur le profil Facebook et le blog de l'émission culture-prohibée.blogspot.com. Culture Prohibée était une émission préparée et animée par votre serviteur Jérôme Potier, dit La Gorgone, assisté pour la programmation musicale d'Alexis Admiral Lee. Une émission animée avec Damien Demey, dit La Bête Noire de Compiègne, Thomas Roland, dit Le Loup-Garou Picard. And the last but not the least, je veux bien sûr parler de Léo Magnin à la technique. Salut les gens, à la prochaine. All targets are taking aim. All targets are taking aim. We're the target.